Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
1, la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, bienvenue dans votre émission d'actu. On le refait.
Vas-y,
il est 6h avant minuit, bienvenue dans votre émission d'actualité locale signée Radio Célab. Et aujourd'hui, vous pouvez nous écouter donc à Rennes, mais aussi partout en Bretagne, notamment sur Radio Boa. Et tout de suite, les flashs d'Héloïse.
Rafale de contrats de vente pour Dassault Aviation à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde. L'entreprise française est sur le point d'officialiser la vente de 114 avions de combat Rafale. Selon l'Élysée, les discussions sont positives et devraient se poursuivre jusqu'à la fin du passage du président français ce jeudi. L'année dernière, l'armée de l'air indienne a déjà signé pour 26 aéronefs. En 2016, elle en avait acquis 36. Cette nouvelle commande pourrait faire de l'Inde le principal acheteur de Rafale dans le monde. L'Union européenne n'en a pas fini avec Chine. Le site de vente en ligne fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne ouverte aujourd'hui. Dans le viseur de Bruxelles, les poupées pédopornographiques et les armes vendues par la plateforme chinoise. En plus de ces produits illégaux, l'institution européenne dénonce les aspects addictifs du géant de la vente. Le manque de transparence de son algorithme de recommandation de produits est notamment décrié. Si des infractions au règlement européen sur les services numériques ou DSA sont confirmées, Chine encourt des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel. Ce matin, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui autorise l'utilisation de systèmes de vidéosurveillance algorithmique dans les supermarchés. Lola, tu nous en dis plus.
Se faire surveiller par une IA lors de vos commissions au supermarché, c'est l'expérimentation qui a été autorisée par l'Assemblée nationale ce matin, portée par le député Renaissance Paul Midi, avec le soutien de Renaissance, LR, Horizon et du Rassemblement National. Le texte est adopté en première lecture par un hémicycle désert, 60 voix pour et 13 voix contre. Le parti Modem s'est lui abstenu de voter. La proposition de loi autorise donc l'utilisation à titre expérimental de l'analyse des images de vidéosurveillance des commerces de détail, grandes surfaces et centres commerciaux par un algorithme.
Et comment ça fonctionne exactement, Lola ?
Eh bien, c'est assez simple. L'IA est programmée de façon à identifier et à réagir en fonction de certains comportements. Ainsi, s'il y a une anomalie qui est identifiée, par exemple si un produit est glissé dans un sac, l'alarme se déclenche. Une alerte est envoyée au commerçant ou à la commerçante qui peut alors intervenir. Cette technologie n'était jusqu'à présent pas autorisée en France, alors interdite par une loi macroniste. Mais selon Paul Midi, 2000 à 3000 commerces auraient déjà recours illégalement à cette méthode, ce par quoi il justifie sa proposition de loi.
Mais est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de nos libertés fondamentales ?
Eh bien, c'est la question qu'a posée la gauche, qui réfute largement le texte. L'écologiste Cyrielle Chatelain avait d'ailleurs alimenté le débat en pointant du doigt les dernières alertes et inquiétudes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, sur le dispositif. Elle avait aussi rappelé que les chiffres donnés par Paul Midi n'étaient pas vérifiables et encore moins sourcés.
Mais on a déjà entendu parler de ce dispositif, il avait d'ailleurs été testé lors des JO 2024, c'est bien ça ?
Et oui, et les résultats de l'expérience n'étaient pas très concluants. Le comité, alors chargé d'évaluer l'utilisation de cette vidéosurveillance algorithmique, VSA, avait remis en cause l'efficacité et la pertinence du dispositif dans un rapport remis en janvier dernier au ministère de l'Intérieur. Mais ce nouveau texte prévoit certains garde-fous. Il interdit l'utilisation de techniques de reconnaissance faciale et il oblige l'information du public lorsque cette technologie est employée. Paul Midi précise aussi que ces traitements algorithmiques ne peuvent pas fonder par eux-mêmes aucun acte de poursuite. L'expérimentation de la surveillance algorithmique dans les commerces afin de prévenir les vols est désormais autorisée jusqu'à fin 2027.
Merci Lola. Ramener de la sérénité, non pas dans les supermarchés, mais à l'Institut du Monde Arabe. C'est le souhait formulé par Anne-Claire Legendre, remplaçante de Jack Lang à la tête du centre culturel. Élue à l'unanimité, cette diplomate arabophone était jusqu'à présent conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Sa candidature intervient dans un contexte tendu. Le président démissionnaire doit laisser sa place, contraint par ses liens avec l'affaire Jeffrey Epstein, accusé d'être à la tête d'un réseau de trafic sexuel pédocriminel. Anne-Claire Legendre terminera donc le bail de Jack Lang jusqu'en décembre et pourra ensuite être reconduite pour un mandat de 3 ans. L'Assemblée nationale se réunit dans le silence. Divisée par la mort du militant nationaliste Quentin Derenque, l'ensemble des présidents et présidentes de groupes ont accepté de respecter une minute de silence en sa mémoire au sein de l'hémicycle cet après-midi. Le jeune identitaire de 23 ans est mort des suites de ses blessures après une agression survenue en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan ce week-end à Lyon. Si aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment, 5 suspects ont évolué dans le passé dans le cercle de la Jeune Garde, un groupe d'ultra-gauche proche de LFI. Depuis hier, l'assistant du député LFI Raphaël Arnaud, cité par plusieurs témoins, a vu son accès à la chambre basse suspendu. L'Ille-et-Vilaine ne change pas de couleur, la vigilance orange persiste aujourd'hui pour les risques de crues. De nouvelles précipitations sont attendues ce soir et demain. Les décrues amorcées pourraient donc être interrompues dans les prochaines heures. À Bru, la clinique psychiatrique du Moulin, aux abords de la Seiche, a été évacuée hier. C'est la 3e fois en un an. Dans les 3 autres départements bretons, on annonce une vigilance jaune. Une météo qui va faire des heureux chez les crapauds qui ne sont pourtant pas à la fête ces dernières années. Sur la route départementale 35 près de Talensac où défilent plus de 500 voitures par jour, leur taux de mortalité est très élevé. La route a donc été fermée il y a 3 semaines. Le but, identifier les flux de traversée des crapauds en pleine période de reproduction pour mieux les protéger. En partenariat avec l'association Bretagne Vivante et la Ligue pour la protection des oiseaux, mais aussi avec l'accord de la propriétaire du terrain, le département d'Ille-et-Vilaine espère pouvoir y creuser à terme un crapauduc. Mardi, l'AFKEN a sorti son caouet et s'est rendu sur le lieu de l'opération où 150 bénévoles se relayent pour faire passer les amphibiens de la forêt à l'étang.
Aux abords de Talensac, sous une fine pluie matinale, les crapauds chantent.
J'ai voulu être bénévole et participer à ce sauvetage en fait.
Voilà, même schéma, et puis en plus j'habite pas loin, donc c'était l'occasion de venir aider localement.
Ils et elles sont employés au département et ont décidé de s'inscrire comme volontaires pour venir aider ce matin.
Ils nous ont expliqué un petit peu ce qu'on allait faire sur place et en fait comment reconnaître les différents types d'amphibiens, donc ça c'était hyper intéressant. Ça développe aussi la sensibilité à la biodiversité, parce qu'on a plus envie de protéger ce qu'on connaît.
Ouais, j'ai appris pas mal de choses, c'était bien, c'est toujours satisfaisant.
Pareil, le plaisir d'avoir pu les aider à traverser pour aller se reproduire ensuite dans les temps.
D'un côté, une zone boisée où les crapauds vivent la majeure partie de leur vie, de l'autre, des points d'eau, terrain propice à la reproduction. Et entre les deux, la route départementale 35. En la traversant, nous apercevons plusieurs amphibiens morts, écrasés.
Là, nous avons affaire à 2 crapauds épineux.
Sébastien est chargé d'études naturalistes pour la LPO. À la lisière de la forêt, il nous explique l'aménagement temporaire visant à sauver les amphibiens qui voudraient rejoindre l'étang.
Le principe, en gros, c'est de, entre guillemets, piéger les amphibiens avant qu'ils traversent la route par un système de barrières bâchées en entonnoir et qui débouche, ces entonnoirs en quelque sorte, débouchent sur des seaux. Et donc l'amphibien tombe dans le seau, il ne peut pas remonter. Et donc tous les matins, ça impose de venir vraiment tous les matins pour relever le seau. On est déjà à plus de 1000 individus de crapauds épineux ramassés en seulement 15 jours.
Identifier le nombre d'amphibiens qui cherchent à traverser, voir dans quel seau ils se regroupent le plus. Avec ces éléments réunis, le département comme les associations espèrent pouvoir creuser prochainement un tunnel souterrain. Aussi appelé crapauduc, le projet est défendu par Ingrid Pavard, chef du service route et bâtiment du département.
Pour que les animaux puissent traverser en toute sécurité et sans avoir l'accompagnement des humains en fait, derrière.
Un reportage de Lafken Zepeda. Et si le chiffre reste difficile à évaluer, la LPO estime qu'entre 50 et 80% des 1000 amphibiens ramassés ont pu éviter la mort grâce au ramassage. Toujours selon lui, 98% d'entre eux étaient des crapauds épineux, accompagnés par quelques salamandres, tritons et autres grenouilles. Mais ces petites bêtes ne sont pas sorties d'affaire, un nouveau danger les guette. La préfecture d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne vient d'annoncer la découverte d'une espèce toxique envahissante dans la Vilaine, entre Bru et Guichen. Son nom, le myriophylle hétérophylle, cette plante aquatique originaire d'Amérique du Nord est classée préoccupante pour l'Union européenne et est réglementée en France. Très invasive, elle peut coloniser les milieux aquatiques, étouffer la biodiversité locale en privant les espèces de lumière et d'oxygène, mais aussi perturber les activités humaines comme la navigation, la pêche ou la gestion des eaux. L'État appelle les usagers et usagères des milieux aquatiques à signaler toute observation de cette espèce, formant de denses tapis sur l'eau. Contactez la DREAL ou le Conservatoire botanique national de Brest. Autre conseil, nettoyez vos équipements pour éviter la dissémination et ne jetez pas de plantes dans les cours d'eau ou les plans d'eau. On va passer à l'interview. Je te lance. 6 heures.
Minuit, pourquoi ? C'est là, il est midi, la radio sauvage.
Minuit. À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
À toi Lola.
Et oui, inédit, en tout cas c'est inédit en France, un collectif régional d'acteurs et d'actrices breton-bretonnes de l'économie sociale et solidaire, aussi appelé ESS, alerte sur notre capacité collective à soutenir et à prendre soin des plus vulnérables. Pour en parler, je suis en compagnie de Daniel Delaveau et de sa chemise grise, très boutonnée, président de la Fédération des acteurs et actrices de la solidarité face de Bretagne pardon, et membre du bureau de Solicare Braise. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Solicare Braise, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un consortium de 150 acteurs et actrices breton-bretonnes qui agissent dans le secteur privé et non lucratif du social solidaire, du médico-social et du sanitaire. Vous êtes des associations, des organisations et vous luttez pour mettre en lumière le rôle essentiel des acteurs et des actrices associatifs et mutualistes qui agissent chaque jour pour l'accès aux soins. Pour porter votre voix, vous organisez de nombreuses tables rondes, des discussions avec les citoyens et citoyennes et acteurs et actrices publics. Vous venez d'ailleurs nous présenter un manifeste. Vous l'avez nommé ainsi, Manifeste pour une République qui prend soin des plus vulnérables. Que contient concrètement ce manifeste et pourquoi le sortir maintenant ?
Merci. Il ne vous aura pas échappé qu'on approche et on est en plein dans une période électorale. Ce sont dans un mois, moins d'un mois maintenant, les élections municipales et intercommunales. Et puis il y aura en 2027 des élections majeures présidentielles en France. Et notre souci à Solicare Braise et à l'ensemble des fédérations, associations et organismes que nous regroupons, c'est de faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas souvent la parole, qui n'ont pas de voix, qui sont invisibles, les personnes les plus précaires, les plus vulnérables, et pour lesquelles nous constatons qu'il y a une situation de précarité et de pauvreté qui s'aggrave. Vous savez, ici en Bretagne, le taux de pauvreté est de 11,4%. Il est inférieur à la moyenne nationale française, qui est malheureusement de pratiquement 15%. Mais 11,4% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Bretagne, concrètement, ce sont 350 000 personnes qui sont concernées. Et nous avons nos associations qui accompagnent, dont le cœur de l'action, c'est l'accompagnement des personnes en précarité, qu'il s'agisse de personnes à la rue, qu'il s'agisse d'enfants suivis dans les dispositifs de protection de l'enfance, qu'il s'agisse de personnes âgées qui sont accompagnées dans leur vie quotidienne, chez elles, à domicile ou en EHPAD, eh bien, les moyens de nos associations sont en grande difficulté. Et nous voulons sensibiliser et mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics, et singulièrement, puisque c'est la période, les futurs élus locaux et intercommunaux, pour que l'action sociale soit une des priorités des politiques publiques.
Alors la Bretagne, c'est une terre d'économie sociale et solidaire. C'est la première région française de l'économie sociale et solidaire en France. Donc l'ESS, c'est 14% de l'emploi salarié au total et ça représente 18,2% de l'emploi privé breton. Avec ses 165 000 salariés, le secteur associatif tout confondu concentre 69% des emplois ESS en Bretagne, dont 15% de ces établissements sont des coopératives. Ça fait beaucoup de monde. Et pourtant, depuis 2021, vous alertez sur la diminution continue des financements publics destinés à la santé et aux solidarités. Quelle est votre lecture actuelle de la situation sanitaire et sociale en Bretagne ?
Eh bien, il y a une dégradation dans le domaine de... On pourrait longuement parler des questions de la santé, mais dans le domaine de la précarité et de la pauvreté, les personnes qui se retrouvent sans logement, qui se retrouvent avec des difficultés de santé, que ce soit d'ailleurs des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé mentale, qui touchent de plus en plus un nombre de plus en plus important de personnes, et y compris beaucoup de jeunes. Voilà. Donc les questions de logement, les questions de santé, les questions d'emploi, d'accès au travail, et les questions de l'accès aux droits. Je pense aussi, bien sûr, aux personnes exilées, migrantes, qui sont en France et qui ont souvent un statut difficile. Voilà un peu ces préoccupations sont pour nous essentielles. Et on a fait une enquête au niveau de la Fédération des acteurs de la solidarité au niveau national sur les quelques 900 associations que nous rassemblons au niveau national. C'est une sur deux en 2026 est en situation financière difficile. Et près de une sur quatre peuvent se retrouver en situation très de fermeture d'ici à la fin de l'année. Or, pour la cohésion sociale de notre secteur, imaginez ce que serait notre société s'il n'y avait pas tous ces services et dispositifs qui accompagnent. Et ceci nous concerne tous, parce que ça va de la petite enfance jusqu'à la fin de vie aux personnes âgées. La protection de l'enfance, le soin à domicile et la précarité, l'hébergement d'urgence, etc. Donc voilà, nous tirons une sonnette d'alarme en disant effectivement, investir dans le social, ce n'est pas de l'argent gaspillé, mis en l'air, c'est de l'argent qui sert à faire vivre au quotidien nos concitoyens. On considère que nos associations accompagnent en Bretagne pratiquement tout confondu, tout secteur confondu, social, médico-social, sanitaire, un Breton sur quatre est concerné par cet accompagnement. Donc, vous voyez, alors c'est très émietté, mais il y a une foultitude. Et heureusement, dans pratiquement chaque commune, il y a des services d'aide, des services sociaux, des services d'aide qui sont là et qui sont gérés par nos associations en plus grand nombre.
Donc c'est dans ce contexte que vous nous avez un petit peu expliqué que est né Solicare Braise. Et justement, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent qui sont les membres fondateurs du collectif ?
Eh bien, Solicare Braise, au départ, ce sont 12 fédérations régionales qui travaillent dans la solidarité. C'est la Fédération des acteurs de la solidarité, dont je suis le président pour la Bretagne, mais c'est aussi NEXEM, c'est l'URIOPS, l'Union régionale des organisations sanitaires et sociales, c'est l'UNA, c'est l'ensemble des fédérations qui regroupe les associations du secteur, y compris la protection de l'enfance, et puis tout ce qui est l'aide à domicile, l'UNA, la DEDOM, et un certain nombre d'autres fédérations. Mais l'originalité de, ne, Pour le regroupement, Soli-Kerbrez est né comme cela, avec ses 12 fédérations, mais nous avons élargi notre cercle et aujourd'hui, pour ce manifeste, nous avons des organisations syndicales de salariés, la CFDT, la CFTC, qui se sont joints à nous. Nous avons la CRES, la Conférence régionale sanitaire de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je vais y arriver. À force de jongler avec les sigles, on en oublie parfois leur signification. Et puis, nous avons aussi, dans notre collectif, des représentants des personnes qui sont accompagnées, soit par les familles, soit directement.
Et on l'a dit au début de l'interview, c'est inédit. En France, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette démarche qui est la vôtre, elle est considérée comme justement inédite ?
Bien, je pense que ce regroupement, il est aussi le fruit et le produit de l'histoire en Bretagne. Il y a d'autres collectifs dans d'autres régions de France qui existent et qui regroupent, mais qui sont sur des actions ponctuelles parce que tout le monde se connaît. Mais nous voulons faire en sorte que chacun sorte un peu de son couloir de nage parce qu'il y a de quoi s'occuper chacun dans son secteur. Mais nous avons des enjeux communs. Hein, la question de la précarité, elle traverse la question du logement, la question de la santé, la question de l'emploi, la question des droits, elles sont transversales et il faut se regrouper. Et alors, en Bretagne, il y a une tradition forte qui existe dans le domaine social. Et nous avons, il est vrai, un grand nombre de collectivités territoriales. C'est vrai pour la région, c'est vrai pour des départements, c'est vrai pour un certain nombre de villes, dont les grandes villes, Brest, Rennes, Lorient, Saint-Brieuc, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais qui ont cette préoccupation sociale au cœur de leur action.
Alors, vous nous l'avez dit aussi un petit peu, donc, l'importance de ce secteur associatif donc dans le milieu de la santé et du médico-social en Bretagne. Vous l'avez aussi dit, je vous recite, vous accompagnez un Breton et une Bretonne sur quatre environ durant une année entière. Est-ce que vous avez un petit peu l'impression que le secteur associatif, il compense aujourd'hui le désengagement de l'État face aux enjeux médico-sociaux ?
Il est vrai que s'il n'y avait pas les associations, imaginez ce que serait la situation. Alors, les associations ont une mission de service public. Elles sont en grande partie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en grande partie aussi financées par les pouvoirs publics, par l'État, qui intervient fortement, par les collectivités, chacune avec ses compétences. Le département a une compétence très forte en matière d'action sociale. La région intervient aussi, même si c'est plus léger, puisque ses compétences ne sont pas là. Et puis les collectivités territoriales, les communes et les intercommunalités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, dans le contexte national et international que nous connaissons tous, les budgets se resserrent. Et puis, ce que nous constatons, d'où vient le problème, c'est que les charges augmentent, les charges de fonctionnement naturel, l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, etc. Les salaires aussi augmentent, et heureusement, bien évidemment, pour les salariés. Mais les ressources, elles, ne suivent pas cette évolution. Nous plaidons pour que effectivement elles puissent prendre en compte et qu'on puisse véritablement considérer que l'action, la politique, les politiques publiques sociales sont déterminantes pour faire vivre la cohésion de la société, y compris la tranquillité de la société. Vous savez, je vais prendre un exemple. Dans le domaine de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, il y a un certain nombre d'associations qui gèrent des chantiers d'insertion. Un certain nombre de ces chantiers d'insertion ont fermé à bas bruit, sans que ça fasse de bruit, effectivement, l'année dernière et cette année. Eh bien, ce sont des gens qui se retrouvent... C'est un dispositif d'accès à l'emploi extrêmement important pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Et puis ces personnes, quand ces services-là se ferment, bien, se retrouvent sans rien. et à la rue. Et on voit bien aussi dans le domaine de l'hébergement d'urgence, les personnes à la rue, leur nombre s'accroît. Et il y a des places qui sont créées, il faut le reconnaître, c'est vrai, des places d'hébergement ont été créées, mais pas suffisamment par rapport aux besoins. Les besoins augmentent plus vite que les ressources.
Donc on l'a dit aussi, votre manifeste, il se replace aussi dans un contexte avec l'arrivée des élections municipales. C'est quoi vos prochaines actions? C'est quoi la suite pour votre collectif?
Eh bien, nous voulons faire connaître ce manifeste auprès de l'ensemble des candidates et candidats à ces élections locales, municipales et intercommunales. Nous intervenons et nous le diffusons également auprès de l'ensemble des autres élus locaux et nationaux, les parlementaires, les départements et les régions, parce que nous voulons mettre la pression pour que nos préoccupations soient prises en compte.
Et si on veut, nous, auditeurs et auditrices, vous suivre, suivre vos actions et lire ce manifeste, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Eh bien, sur les sites internet de nos associations, ce manifeste est très largement diffusé, ainsi que sur les réseaux sociaux. Hein, donc, il est facilement consultable et diffusable, parce qu'il faut le faire connaître, sur le site Solicaire-Braise en particulier.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Delaveau. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération des acteurs et actrices de la solidarité face de Bretagne et membre du bureau de Solicaire-Braise. Merci.
Merci à vous.
6 heures avant minuit.
Cette semaine, nous avons une stagiaire lycéenne à Scilab qui s'appelle Elisa et je suis super contente parce qu'on va entendre sa voix pour la première fois dans 6 heures avant minuit. On va découvrir sa chronique K-pop. À toi Elisa.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de la K-pop, peut-être sur les réseaux sociaux. Mais savez-vous vraiment ce que c'est?
Non, tu vas nous l'expliquer.
La K-pop, c'est tout simplement le nom donné à la musique originaire pop de Corée du Sud. Ce genre émerge vers 1992, notamment grâce au groupe Seo Taiji and Boys. Il est inspiré du genre pop, du genre rap, mais surtout du genre pop. Le système de la pop coréenne est assez unique. C'est les agences qui sélectionnent leurs talents et qui les forment, jusqu'à ce qu'ils débutent. Les plus grosses agences sont surnommées les Big Three ou les Big Four. Et elles ont formé les groupes les plus connus, notamment Big Bang, 21, EXO, BTS, Blackpink ou encore Stray Kids plus récemment. Je vous ai donc préparé un petit top 3 des meilleurs titres de K-pop pour vous donner envie de l'écouter. Shutdown de Blackpink, qui est sorti en septembre 2022 avec la bande Blackpink. Un sample de la chanson Campanella au violon est présent tout au long de la chanson. Et il est notamment accompagné de basses qui lui donnent une sonorité plus hip-hop et plus moderne. La K-pop s'est grandement inspirée des sonorités afro-américaines, notamment en introduisant des parties rappées ou des basses dans la plupart des chansons comme dans celle-ci. Numéro 2. Runners par Stray Kids est un titre sorti durant l'été 2024 dans l'album 8. Même si ce n'est pas le titre principal de l'album, c'est tout de même une très belle chanson, très profonde. Les paroles parlent d'acceptation de soi, de l'image que les autres ont de nous et de courage. Il n'y a pas de clip associé à cette chanson, mais c'est peut-être pour ça qu'elle est moins connue. Mais pourtant, ça reste une chanson très agréable, assez mélodieuse à écouter. Numéro 3. Don't know be what you're in the name of love. interprétée par le groupe Miao est sûrement ma création audiovisuelle préférée de toute la K-pop. Le titre est sorti en mai 2025 dans le mini-album My Eyes Open Wide. Les paroles parlent de l'innocence de la jeunesse, de l'indépendance et de devenir soi-même. Le titre est accompagné d'un clip assez esthétique qui mêle des vidéos que les membres ont elles-mêmes prises, des séquences de danse et quelques effets spéciaux. L'ensemble est pensé pour rappeler l'innocence, la liberté et les bons moments passés entre amis.
Merci beaucoup Elisa. Je crois qu'on aura l'occasion de t'entendre encore d'ici la fin de la semaine dans 6 heures avant minuit. Je te propose en attendant qu'on écoute le répondeur.
Téléphone. Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Bon, c'est triste, il est vide aujourd'hui, mais je le redis, vous pouvez nous laisser un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Si grâce à Elisa, vous avez découvert la K-pop, expliquez-nous pourquoi vous êtes fan de K-pop maintenant. Faites-nous des retours sur nos reportages, nos interviews, on vous écoute. Donnez-nous des idées de sujets, 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.